Et c'est déjà le moment de la semaine où on prend le temps de se renseigner sur ce moyen de transport qui nous touche tous et toutes de façon directe ou indirecte, le vélo. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Salut Magali.
Salut David. Alors, la semaine dernière, je suis venue vous parler du beau travail que certaines de nos élus faisaient pour vraiment faire preuve de pédagogie et expliquer la nécessité de changement dans nos environnements. Mm-hmm. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer un petit peu sur la même lancée en venant vous parler du poids des mots qu'utilise la police et des messages que les services de police transmettent dans des questions de sécurité routière et de collisions et d'accidents. Je vais peut-être commencer par ça d'ailleurs. En fait, nous, chez Vélo Québec, on a arrêté de parler autant que possible d'accidents et on préfère parler de collisions parce que l'accident, ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a rien à faire. Puis, tu sais, c'était accidentel, donc c'est pas de chance.
Mais souvent, comme si on n'y pouvait rien, dans le fond.
Comme si on n'y pouvait rien, exactement. Alors que la réalité, c'est que quand il y a une collision qui survient, souvent, il y a plein de causes systémiques qui peuvent expliquer ces collisions-là. Puis, il n'y a pas de fatalité et en s'y attaquant, on peut vraiment améliorer les choses. Alors, quand on lit le compte-rendu d'un accident, comme ils aiment bien dire dans les médias, on lit souvent des titres du type « Un piéton happé par une auto ». Et puis, il y en a un que j'ai vu l'autre jour qui était encore plus frappant. C'était un cycliste happé par un miroir de camionnette qui circulait dans la même direction que lui. C'est comme, waouh, je ne savais pas qu'un miroir de camionnette pouvait se déplacer puis happer un cycliste. Vraiment, on me l'apprend. Je sais que l'auto autonome arrive. La voiture autonome va peut-être pouvoir indépendamment prendre ses décisions. Mais en attendant, au volant de ces véhicules-là, souvent, il y a des humains. Alors, ce serait beaucoup plus exact de parler des conducteurs qui ont causé des blessures à d'autres usagers de la route. Et d'ailleurs, on voit que le mode passif est souvent utilisé. Donc, c'est le piéton qui est tapé comme si on refusait de donner la responsabilité au véritable auteur du problème. Alors, ça, ce serait mon premier conseil pour les services de police.
Ça serait, dans le fond, de mettre l'importance sur le mot, comme pas nécessairement dire que quelqu'un a été happé, mais qu'un conducteur a happé.
Un humain. Ouais. Ce serait déjà un bon début de responsabilisation, puis ça commencerait peut-être à entamer le sentiment d'impunité qui règne un petit peu sur nos routes. Dans les autres lignes habituelles qu'on lit, on va par exemple trouver « la vitesse ne serait pas en cause ». Alors je pense que ce que veulent dire les services de police, c'est que ils n'ont pas constaté qu'il y avait un écart de vitesse par rapport à la vitesse maximale. Mais ce n'est pas parce que la vitesse maximale n'a pas été dépassée que la vitesse était pour autant adaptée. Est-ce que la vitesse était adaptée aux conditions météorologiques? Est-ce que la vitesse était adaptée à la quantité de gens qui se trouvaient aux alentours? Est-ce qu'on s'est donné les moyens de réagir adéquatement en adaptant sa vitesse? Donc, il faut peut-être se méfier un petit peu de ces conclusions un petit peu hâtives. L'autre ligne qui fait souvent sourciller quand, par exemple, un cycliste ou un piéton sont blessés gravement, c'est « le conducteur n'a pas été blessé ». Mais oui, tu sais, il était dans un gros char, dans un camion, dans une camionnette. Fait que oui, il n'a pas été blessé. Mais on va souvent nous préciser qu'il est en état de choc. Bon, au moins. Et l'autre chose qu'on lit souvent et qui, moi, me frappe un petit peu, c'est « le conducteur n'a pas vu ». Le conducteur n'a jamais vu le piéton, n'a jamais vu le cycliste. Et moi, j'ai un peu envie de poser la question, il n'a pas vu, mais est-ce qu'il a regardé ? Parce que le Code de la sécurité routière, il comprend un certain nombre d'obligations. Par exemple, il dit à un conducteur qu'avant d'ouvrir sa portière, il a l'obligation de s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Alors de dire « je ne l'avais pas vu », si tu n'as pas regardé, c'est certain que tu n'as aucune chance de voir. Puis à l'heure où on a vraiment des problèmes de distraction sur la route, on peut ne pas avoir vu parce qu'on regardait ailleurs, qu'on ne regardait pas devant soi, mais qu'on regardait l'écran ou quelque chose dans notre voiture. Et je pense que c'est une occasion ratée de la part de nos services de police de rappeler aux gens qu'ils ont des obligations, quand ils sont au volant d'un véhicule dangereux, de s'assurer qu'ils voient bien et de rappeler l'importance d'éviter les distractions. Bien sûr, oui.
Excuse de t'interrompre, mais c'est en gros, c'est, tu résumes bien, je pense que la lecture des événements, pour le grand public, dépend beaucoup des mots qui sont utilisés, là, que ce soit par les forces de l'ordre ou par les médias, on va comprendre peut-être un message différent dépendamment des mots qui sont mis de l'avant.
Exactement. C'est que le même accident ou la même collision, selon la façon dont on le rapporte, va donner sa bonne part de responsabilité au conducteur ou pas. Puis si on revient à la question de la visibilité, c'est vrai que parfois les conducteurs n'ont juste pas moyen de voir les choses. C'est le cas notamment des angles morts aux alentours de gros véhicules, en particulier les camions. Et c'est là où ça devient intéressant de commencer à parler de facteurs contributifs. En fait, les experts en sécurité routière n'aiment pas vraiment parler de la responsabilité de tel ou tel usager. Ils préfèrent parler de facteurs contributifs. Parce que souvent, quand on en arrive à une collision, c'est qu'il y a une série de conditions qui ont été réunies. C'était parfois un mauvais aménagement routier sur lequel circulait un mauvais véhicule qui n'était pas conçu pour des milieux denses urbains qui ne permettaient pas peut-être à son conducteur de bien voir ses alentours. Et puis quelque part, le dernier maillon de la chaîne qui mène à la collision, c'est la mauvaise décision, la distraction, l'erreur humaine. Mais il y a plein de façons de s'attaquer à ces risques de collision-là. Il faut agir également sur le côté systémique. Alors, on sait bien que les policiers sont beaucoup là pour agir sur les comportements, mais ils font partie de cet écosystème-là et dans la façon dont ils expliquent les choses au grand public, ils peuvent contribuer ou pas à faire évoluer l'opinion publique vers des solutions plus durables. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment, à la fin de l'année dernière, avec le décès de la petite Maria dans Ville-Marie, il y a eu ce bon discours-là, à quelque part, on a réagi de la bonne façon en s'attaquant aux causes systémiques, au manque d'apaisement de la circulation, par exemple, au fait que les rues recevaient trop de circulation, qu'il n'y avait pas de mesures d'apaisement sur les corridors routiers. C'est ça le genre de conversation qu'on devrait avoir quand ces malheureux événements-là se produisent.
J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ça a été particulier dans ce cas-ci parce que c'était une jeune fille, puis on a pris le temps justement de bien choisir les mots?
Je pense que oui, puis c'était aussi un contexte où les habitants du quartier se plaignaient depuis longtemps.
C'est ça, c'était déjà des facteurs qui existaient dans l'environnement, qui étaient connus dans le fond.
Exactement, c'est pas arrivé comme une surprise, c'était quasiment écrit dans le ciel que toutes les conditions justement étaient réunies pour qu'un événement tragique de ce type-là se produise. Alors on a enfin pu s'attaquer aux causes systémiques, puis ne pas juste parler du délit de fuite du conducteur en question. Okay. Donc voilà un petit peu l'importance de bien traiter les collisions dans les médias et en tant que service de police dans la façon dont on le ramène. Puis j'en viendrai peut-être à un deuxième élément qui sont un peu les campagnes de sensibilisation qui sont faites notamment de la part des services de police. Et voici mes quelques conseils à destination de ces responsables-là. D'abord, il va falloir qu'on s'entende sur le fait que sur la route, on n'a pas tous les mêmes responsabilités et que plus notre véhicule est gros, plus on a de responsabilités envers les autres usagers. Alors, des slogans de campagne du genre « sur la route, tous responsables », ben, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit très, très bien reçu de la part de gens qui se sentent particulièrement vulnérables et qui savent très bien qu'eux, ils ne vont pas causer la mort de quelqu'un d'autre s'ils font une erreur humaine. Alors, on sait que les conducteurs de camions ont plus de responsabilités que les conducteurs d'auto. Et puis, ça s'applique aussi, en fait, les conducteurs d'auto ont plus de responsabilités qu'un cycliste, qui a plus de responsabilités qu'un piéton, qui a plus de responsabilités qu'une personne handicapée, une personne aînée ou un enfant. Alors, le one size fits all en matière de sensibilisation à la sécurité routière, ça ne marche pas. Il faut vraiment adapter ses messages pour que chacun prenne ses responsabilités. L'autre conseil que j'aurais envie de donner au service de police, c'est gardez-vous une petite gêne avant de blâmer les victimes en fait, le comportement à l'origine du problème, c'est un problème de comportement du conducteur. Le non-respect, par exemple, des traverses pour piétons, de dire aux piétons qu'ils doivent redoubler de vigilance, qu'ils doivent regarder à droite, à gauche, s'assurer d'établir un contact visuel, voire même porter des vêtements clairs et voyants. Je m'excuse, ça aussi, ça ne passera pas. La responsabilité de s'arrêter, d'être vigilante, d'adapter sa vitesse aussi pour pouvoir réagir et pouvoir s'arrêter à un passage piéton, elle incombe au conducteur et c'est important de le rappeler. Et puis, je voudrais aussi terminer en disant, faites donc attention au vocabulaire que vous utilisez, puis ne venez pas perpétuer des stéréotypes. Quand je vois des choses du type « le roi de la route »,« vous n'êtes pas là pour faire le tour de France », ça vient vraiment taper sur le clou du pire de l'opinion publique qui prétend, par exemple, que les cyclistes se fichent de tout et sont là pour s'entraîner sur les routes. Ça n'amène nulle part de faire ces choses-là. Alors, soyons inclusifs, soyons positifs et visons une équité dans les messages qu'on envoie et non pas une égalité. Parce qu'encore une fois, sur la route, c'est pas vrai qu'on est tous égaux.
Puis le choix des mots importe très, très grandement justement dans la façon dont on présente les choses. On continue de faire attention, puis on n'empire pas les tensions qui peuvent exister entre automobilistes et cyclistes. Magali Bebron, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup.
Merci, David.